Dernière fois, nous avions montré l'importance de l'obéissance au sens de se tenir à sa juste place face à l'autre. Je vous rappelle l'expression de saint Pierre dans la première épître, au chapitre 3, au verset 15. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à rendre raison. Dans la traduction de la Bible de Jérusalem, c'est toujours prêt à la défense. Mais littéralement, ce serait plutôt rendre raison à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc à quiconque vous demande. En définitive, on répond à une attente. Se fait serviteur d'autrui, on répond à une attente qui est, si possible, explicite, qui peut rester implicite. Des difficultés que j'ai éprouvées dans mon ministère à l'hôpital, c'était de sentir si une personne qui était malade, qui avait du mal à s'exprimer, si elle désirait vraiment que je la visite ou pas. Se mettre à l'écoute du désir de l'autre, du désir profond. C'est une manière de demeurer, donc, en réalité, dans l'obéissance à Dieu, on obéit qu'à Dieu, évidemment. De s'ajuster à ce que Dieu attend de nous. Et d'échapper à un vouloir faire pour l'autre, malgré l'autre. On sait mieux que lui ce dont il a besoin. On finit par lui imposer un discours qui ne répond à aucune attente, qui est peut-être très beau mais prématuré. Et c'est là où, quelquefois, je m'en suis rendu compte, notamment par impatience, on commet de belles maladresses. Enfin, belles entre guillemets. Il me revient ici une expression de Jean-Paul II, Dieu n'agit que dans la liberté. Lui, il respecte infiniment, et donc si nous voulons agir en Dieu, il faut agir à l'intérieur de ce respect que Dieu lui-même a pour la liberté de ses enfants. Alors, je vous ai parlé de cette obéissance dans la perspective aussi de notre docilité à l'Esprit-Saint. Il va de soi que, moyennant notre obéissance, Dieu peut nous guider par son Esprit-Saint. On peut reprendre l'expression de saint Paul au Galates 5, 6, « Seul compte la foi agissant par la charité ». On peut dire que la foi, c'est l'obéissance aussi. C'est une confiance obéissante. Saint Paul parle plusieurs fois de l'obéissance de la foi. Et donc quand Saint Paul parle d'une foi agissant par la charité, il veut dire par là que ce qui est au commencement, c'est une attitude, qu'on peut dire, d'abandon, d'obéissance confiante, et que moyennant ça, on va pouvoir agir par l'amour, être inspiré, ému par l'amour. Ça rejoint une autre expression qui est dans les Actes des Apôtres, où saint Pierre dit que Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Alors, je reviens sur cette action de l'Esprit Saint. Dans le témoignage, comment on peut comprendre cette action de l'Esprit-Saint qui nous est donnée donc à travers un chemin d'obéissance. Vous savez que Jean-Paul II avait employé cette expression-là dans son encyclique sur la mission du Rédempteur. Il dit que l'Esprit-Saint était le protagoniste de la mission. Ce qui correspond à la première épître de Saint Jean, au chapitre 5, verset 6, c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Comment comprendre l'Esprit et la vérité? On peut se référer à Jean 16, versets 13-14, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, et il vous introduira dans la vérité tout entière. On peut traduire aussi, il vous guidera dans la vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera, vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien, littéralement du mien, de ce qui est mien, qu'il prendra, et il vous le dévoilera. Donc, quand Saint Jean dit l'Esprit et la vérité, ce n'est pas au sens où l'Esprit est la vérité que nous devons connaître, mais au sens où l'Esprit est celui qui dévoile la vérité. Et la vérité, c'est le Christ. Donc, ça ne fait pas, pas de contradiction avec la parole où Jésus dit « Je suis la vérité ». L'Esprit Saint est un esprit de vérité au sens où il dévoile à nos yeux, je dirais, la vérité du Christ, puisque Jésus dit lui-même, c'est de mon bien qu'il prendra et il vous le dévoilera. Donc, quand Jésus demande à ses apôtres d'être ses témoins, il leur demande dans le récit des actes des apôtres. Rappelez-vous, il leur dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Pas moyen d'être témoin si on n'est pas mu par l'Esprit Saint. Puisque le témoin, c'est celui qui dit ce qu'il voit, et seul l'Esprit Saint peut nous faire voir. Seul lui dévoile. Donc, en dehors de l'Esprit Saint, nous sommes des personnes qui parlons de choses qu'ils ne connaissent pas. Et on voudrait faire connaître aux gens des choses qu'on ne connaît pas soi-même. Parce que derrière tout ça, il y a une logique. On ne peut faire voir à autrui que ce que l'on voit soi-même. Ici, je vais prendre les choses de manière un peu en négatif, parce que ça peut aider sans être trop pessimiste, mais c'est évident que une des raisons de la déchristianisation depuis plusieurs siècles, c'est qu'en partie on a pensé pouvoir transmettre la foi comme un savoir. Un savoir qu'on apprend par cœur, un savoir que l'on transmet dans de bonnes écoles. Ici, je pense à la réaction des évêques de France par rapport à la question de savoir si on y aurait des cours de religion en France. Ils n'étaient pas spécialement enthousiastes à cette idée. Et ils ont fait remarquer qu'en Allemagne, il y a bien des cours de religion, mais la jeunesse n'est pas plus évangélisée. Pourquoi ? Parce que c'est transmission d'un savoir. Et moi, j'ai pu vérifier la chose en étant en Belgique. Il y a aussi des cours de religion, c'est cours de morale ou cours de religion. Transmission d'un savoir de la part de professeurs qui ne se vivent pas comme témoins. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur préoccupation. Ils sont là pour enseigner la religion. Mais ça, c'est la mort du christianisme. Ça peut être bien pour d'autres religion qui serait intellectuelle essentiellement, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas pour notre religion d'amour, qui est une religion du cœur, qui est une religion, qui est la religion contemplative par excellence, ben c'est une impasse. Et l'impasse, elle est d'abord dans le fait qu'on ait pu mettre notre confiance dans une transmission d'un savoir peut-être de plus en plus élaboré intellectuellement. Mais ça y change rien. Donc, je pense que c'est pas besoin de faire de grands discours sur la manière dont le style universitaire s'est progressivement réduit à transmission d'un savoir à peu de choses près, quoi. Par rapport à ce qui était à l'origine des universités en Europe, c'est quand même la vie contemplative, pas l'oublier. Que les écoles, les premières universités à Paris, c'était la continuité des écoles monastiques, et ceux qui enseignaient, c'était les religieux, franciscains et dominicains. La première génération des professeurs à Paris, d'université, c'est Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand. Bon. Donc par rapport à ça, soyez mes témoins, vous recevrez une force d'en haut. Il m'est revenu une réflexion, mais je n'ai pas retrouvé la phrase exacte, de Peggy, disant donc au début du XXe siècle, disant que l'erreur de prêtres de son époque, c'est d'avoir réduit la catéchèse, enfin la transmission de la foi, à la transmission d'un savoir. Et une intelligence comme celle de Peggy ne pouvait évidemment pas rentrer dans la transmission d'un savoir. Parce que c'était un contemplatif, je dirais, à l'état pur. Alors, en réalité, sans l'Esprit Saint, on ne peut pas être dans la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la conformation de notre intelligence à la réalité. C'est comme ça que définit Saint Thomas d'Aquin. Conformation de mon intelligence à la réalité, ce qui suppose que mes yeux soient ouverts, et qu'il y ait de la lumière. Qui ouvre les yeux de mon esprit, l'Esprit Saint, et où est la lumière? Qui est la lumière? On peut dire que c'est Dieu lui-même. Dieu est lumière, dit Saint Jean. Je ne sais pas s'il faut choisir une des trois personnes de la Trinité. Dieu est amour et Dieu est lumière. Les deux, il faut tenir les deux. Dieu est logos, aime dire Benoît XVI, et Dieu est amour. Et donc, j'insiste sur le fait que l'Esprit Saint, peut-être qu'il y a de cette action de dévoilement, il vous introduira à la vérité tout entière. En fait, il ouvre les yeux de notre esprit. Je le perçois de plus en plus comme ça. Il nous introduit dans la vérité au sens où il ouvre les yeux de notre esprit. Vous allez me dire que les yeux de notre esprit s'ouvrent quand même naturellement à un certain nombre de choses. Par exemple, la physique, bien. Dire que l'intelligence de l'homme s'est ouverte à la réalité physique et a pu la comprendre jusqu'à un certain point. Mais en fait, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Vous demandez à un physicien qu'est-ce que c'est que l'énergie, il vous répondra qu'il ne sait pas. Si vous l'interrogez sur la réalité elle-même, il vous demandera qu'il ne sait pas. Vous lui demandez ce que c'est que l'eau, il répondra qu'il ne sait pas non plus. Un grand physicien. Par contre, il connaît certaines lois. Il a accès à un certain nombre de lois. Il a réussi à comprendre un certain nombre de lois. Mais la vérité, c'est la connaissance de la réalité elle-même. Je prends un autre exemple. Vous pouvez, par les sciences, la psychologie, donner, c'est plus parlant peut-être, par la connaissance, la psychologie, par différents tests, arriver à dresser les caractéristiques de la personnalité de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous le connaissez, évidemment. Ce n'est pas ça la vérité. Si la personne vous lui donne les tests graphologiques, les tests de ça, tout ce que vous voulez, et vous lui dites ça c'est votre vérité, elle vous répondra non, ça c'est pas ma vérité. Donc la réalité elle-même ne se dévoile vraiment, pleinement, que par l'Esprit Saint. Même pour les choses de la terre, j'ai envie de dire. Même pour les choses de la terre. Alors, a fortiori pour les choses du ciel. Pour les réalités qui ne sont pas de ce monde. Et alors, l'Esprit Saint, c'est qui ? C'est un adaptateur. Il adapte notre intelligence humaine à la connaissance des réalités divines. Qui suppose une adaptation divine, ou à la connaissance des réalités humaines dans la lumière divine. On peut dire que l'Esprit Saint, c'est celui qui nous dispose à Dieu, qui nous dispose à la lumière de Dieu. Nous sommes faits pour voir la réalité, qu'elle soit de la terre ou du ciel, dans la lumière de Dieu. C'est tellement évident qu'on ne connaît l'autre que dans la lumière de Dieu. Et donc j'insiste sur le fait que notre esprit, évidemment, il est fait pour voir Dieu. Nous sommes créés pour Dieu. Notre esprit est fait pour voir Dieu, mais il est absolument incapable de lui-même de voir Dieu. Il faut tenir les deux, vous voyez. L'homme est fait pour Dieu, mais il est absolument incapable de Dieu par lui-même. Il a absolument besoin de l'Esprit Saint, tant pour connaître Dieu que pour l'aimer. Et comment on peut... Comment on peut comprendre ça? Ben, c'est le mystère de l'homme, c'est que l'homme passe infiniment l'homme, comme dit Pascal, et que la vie surnaturelle à laquelle nous sommes appelés, ça c'est une pensée du Père Thomas, la vie surnaturelle, on peut parler comme ça, parce qu'elle est au-dessus de nos moyens humains, la vie éternelle, elle est au-dessus de nos moyens humains, évidemment. Elle est, comme dit Saint Paul, hein, elle est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Qui d'entre les hommes sait que c'est ce qui concerne l'homme sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Et donc, l'homme est fait pour une réalité qui le dépasse infiniment, mais c'est en s'ouvrant à cette réalité et en vivant de cette réalité qu'il devient pleinement naturel, qu'il devient pleinement humain. Ça, c'est une belle pensée du Père Thomas, c'est que la vie surnaturelle est plus naturelle que la nature. Laissée à elle-même. Et donc on reconnaît les vrais saints à leur humanité. Il y a une personne qui fait partie du MCR, et j'aime beaucoup écouter les personnes du MCR, je tiens à le dire, Mouvement des chrétiens retraités, on apprend toujours auprès des anciens, et on parlait de la relation aux défunts. Et il y en a une qui a dit qu'elle sentait cette relation, l'un ou l'autre défunt qu'elle avait connu, elle sentait que cette présence des défunts, en fait, cette nouvelle relation, était pleine de tendresse de la part du défunt. Nous serons beaucoup plus délicats, tendres, humains les uns avec les autres au ciel que nous ne sommes sur terre. Mais j'ai bien aimé ce mot de tendresse qui traduit une qualité d'humanité nouvelle qui sera donnée quand nous serons tout entiers plongés en Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des saints qui donnent l'impression de ne pas être très drôles, hein, mais ce n'est pas leur sainteté qui fait ça, c'est leur caractère avec ses limites, qui n'est pas entièrement sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Ce que je vous dis aussi peut vous aider à comprendre que quand nous sommes témoins, c'est-à-dire quand nous nous laissons éclairer, ouvrir par l'Esprit-Saint et éclairer par la lumière de Dieu, laissons notre esprit s'ouvrir, donc mu par l'Esprit à la réalité, aux réalités, enfin la réalité dans la lumière de Dieu, bien, il n'y a pas nécessairement le senti d'une inspiration, voyez, d'une illumination. Ça peut se faire très naturellement, enfin très naturellement, d'une manière qui est en réalité surnaturelle, mais qui ne se sent pas, ça se sent un petit peu quand même, mais à quoi on peut reconnaître que notre esprit est mu par l'esprit et que nous voyons les choses, je dirais, dans une lumière nouvelle, tout en ayant un exercice de notre esprit qui est apparemment tout naturel. Quelles sont les caractéristiques de ce naturel surnaturalisé, plus naturel que le naturel? C'est la question, voyez? Parce que sinon, on en reste à la vie charismatique au sens brut, c'est-à-dire des grâces ponctuelles, impressionnantes, qui fait qu'on a une vision, on a une image, on a des lumières. Bon. Mais ça, ce n'est pas la vie chrétienne, je dirais, permanente. L'Esprit-Saint désire nous éclairer en permanence. C'est ça la différence. Au niveau du témoignage, on peut être témoin dans tout ce que l'on vit, parce que en tout ce que l'on vit, on peut voir tout dans une lumière nouvelle. Ça, ce n'est pas réservé à des grâces particulières. Vous savez que les charismes sont définis par des grâces ponctuelles, gratuites, qui sont données donc pour enrichir le témoignage, mais qui n'ont pas du tout la même valeur que l'action permanente de l'Esprit-Saint à travers, comme on va le voir, les sept dons de l'Esprit-Saint. J'espère que vous me suivez. Alors, si on se situe au niveau des sept dons de l'Esprit-Saint, pour dire les choses de manière plus technique, entre guillemets, qui sont des dispositions divines permanentes, c'est l'Esprit-Saint adapte notre intelligence par ces sept dons. Les dons de l'Esprit, ce n'est pas des lumières. En même temps, de sagesse, ce n'est pas une lumière. C'est une disposition de notre intelligence à la lumière. Eh bien, à quoi peut-on reconnaître que notre intelligence se meut en fait librement, parce que là où est l'esprit, là est la liberté. C'est notre manière de dire qu'elle se meut surnaturellement, naturellement. Ben, d'abord, justement, à cette liberté, sans un déploiement de la pensée libre. On n'est pas enfermé dans des raisonnements. La pensée est cohérente, elle est logique parce que Dieu est logique, il est logos, il est logique. Mais elle a une amplitude pas prisonnière d'elle-même, autrement dit, pas enfermée dans le raisonnement qui devient un esprit de système, elle est loin de l'esprit de système. Elle reste ouverte au mystère, prétend pas réduire le réel à ce qu'elle peut exprimer. Et donc elle reste une intelligence ouverte, donc aussi ouverte au dialogue. Elle s'exerce dans la paix nécessairement. On ne voit clair que dans la paix, il y a une paix intérieure. Et dans l'intériorité aussi, évidemment, puisque cette intelligence qui se déploie dans la lumière de Dieu, divinement disposée par l'Esprit Saint, elle s'enracine dans le cœur, elle dépend du cœur. Il y a une sorte de légèreté, de détente. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je mets régulièrement en garde contre le vouloir convaincre, ou le vouloir montrer que. C'est parce que là, on commence à se crisper. Or, le témoin, il veut rien, il dit ce qu'il voit, c'est tout. Il est docile à l'Esprit Saint. Alors, les sept dons de l'Esprit Saint qui adaptent donc notre humanité, nos facultés, qui adaptent nos facultés à Dieu, à la lumière de Dieu, à voir Dieu en tout et à voir tout en Dieu. Bien, sont toutes des prolongements de la charité. Et c'est en cela qu'elles s'enracinent dans le cœur. Puisque c'est dans nos cœurs, dans notre cœur, que la charité a été répandue par l'Esprit Saint qui nous fut donné, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Et donc, voir les dons de l'Esprit Saint comme des prolongements de la charité, c'est se poser la question de savoir comment la charité nous dispose. Dans quelle disposition nous met la charité? Charité qui nous fait aimer Dieu plus que tout, plus que nous-mêmes. Charité qui est l'amour extatique, hein, par excellence. Le seul véritablement extatique. J'aime bien reprendre trois images ici pour dire un peu dans quelle forme nous met la charité. La charité, elle a une forme de service, on va dire, au sens où aimer Dieu par-dessus tout, c'est d'abord, très concrètement, vouloir sa volonté par-dessus tout. Non pas ma volonté, mais la tienne. Rappelez-vous la prière du Père de Foucault. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien d'autre. Et ça revient à une autre image, c'est que Dieu se présente comme notre maître. Il est notre roi, il est le Seigneur. La première chose qu'il nous demande, c'est de nous mettre en forme de serviteur. Donc ici, on rejoint la question évidemment de l'obéissance dont j'ai parlé. C'est que Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent et que l'Esprit Saint lui-même, quand il met la charité dans notre cœur, c'est pour nous faire obéir. Il y a toujours une réciprocité. Donc, si nous recevons l'Esprit Saint, notre amour pour Dieu, qui est cet amour surnaturel, nous met en position de service. Et j'ai envie de dire que nous consacrons notre intelligence au service de Dieu. Notre intelligence est consacrée au service de Dieu. Elle cherche à correspondre à ce qu'il, à la vérité qu'il veut nous montrer. Voyez très concrètement au niveau de l'intelligence, des personnes qui lisent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, selon leur goût, leur caprice spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire, ils ont des tonnes de livres religieux, et puis ils choisissent. Ben, c'est pas juste. C'est pas juste. Si vous voulez que votre intelligence, elle se meuve par l'Esprit Saint, il faut même pas choisir ce que vous allez lire. Parle, ton serviteur écoute. Et laisser Dieu parler, c'est laisser Dieu aussi choisir la lecture. On n'a pas droit de lire selon son bon plaisir, même des choses qui en elles-mêmes sont religieuses. Non. Il faut être docile à Dieu en tout. Faute de suivre comme ça, il y a des personnes qui lisent des livres très spirituels, mais qui ne sont pas du tout adaptées à ce qu'elles sont, et qui se perdent dans toutes sortes d'élucubrations spirituelles. Aussi, quelquefois, par gourmandise. Hein. Gourmandise, curiosité, excès de zèle. Donc, la charité nous met en forme de service par rapport à Dieu, d'abdication de notre volonté propre. Bon. La charité nous met aussi dans une attitude filiale. Elle est un amour filial, la charité. Pas simplement l'amour du serviteur pour son maître, qui se sacrifie pour son maître, qui s'oublie entièrement lui-même pour servir son maître dans de manière désintéressée. Mais la charité est aussi filiale, elle est même plus encore filiale. Mais l'enfant, il met sa joie à faire plaisir à son papa. Il ne cherche pas à faire des choses, il cherche à écouter son papa, à lui faire plaisir, pour rester proche de son papa. Et enfin, la charité nous met dans une attitude sponsale, c'est-à-dire l'attitude de l'épouse. Que décrit si bien Élisabeth de la Trinité. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je veux être une épouse pour votre cœur. Évidemment, c'est une femme qui parle, mais nous savons que toute âme est épouse et qu'en définitive, Dieu nous aime d'un amour d'éros. Et donc, nous sommes tous appelés à avoir une relation sponsale avec notre Dieu d'amour. En gardant les trois, hein, nous sommes serviteurs. La Vierge elle-même ne dit que ça, je suis la servante. En gardant l'image de l'enfant, évidemment, qui nous dit la dépendance totale dans l'humilité, dans une petitesse que nous apprenons à aimer. Et enfin, l'image de l'épouse qui nous dit que Dieu nous aime d'un amour brûlant et qui ne se payera que, en définitive, d'un amour brûlant. Alors tout ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que la charité en nous, se déploie comme un abandon. Écoutez, j'ai essayé de résumer les choses. Un abandon amoureux, filial et obéissant. Mais l'abandon amoureux filial, il est nécessairement obéissant. Mais c'est bien, voyez, de garder l'image de l'épouse, de l'enfant et du serviteur, Mais tout ça, on peut dire que ça se concentre en un abandon, disposition d'abandon, une livraison de nous-mêmes, une réceptivité à celui auquel nous nous donnons, nous nous livrons, nous nous abandonnons totalement. Alors, si la charité a essentiellement, finalement, une forme d'abandon, et que cet abandon, il est dans notre cœur d'enfant, dans notre cœur d'épouse, et il doit être aussi dans notre cœur de serviteur, sinon on tombe dans le volontarisme. Eh bien, à ce moment-là, il y a un esprit d'abandon, une attitude d'abandon, qui vient du cœur comme une disposition fondamentale. Avec abandon, je mettrais bien donc réceptivité et passivité quelque part. Passivité au sens où l'épouse, ce qui lui est propre, c'est de savoir accueillir l'amour premier de l'époux, de se laisser aimer, donc aussi de se laisser faire. Normalement, l'épouse est soumise à l'époux. En tout cas, quand c'est Dieu, l'époux, il n'y a pas de discussion. Vous voyez, je m'adapte. Et donc, cette attitude de soumission, abandonnée, mais une soumission d'abandon, c'est-à-dire on se laisse aimer, et parce qu'on se laisse aimer et qu'on est aimé d'un amour pur, on peut s'abandonner à cet amour. En fait, je crois que les épouses humaines avec les époux humains attendent que leur époux humain les aime d'un amour pur, et comme ce n'est jamais totalement le cas, effectivement, elles trouvent un motif à sortir de cette attitude d'abandon. On va résumer les choses comme ça. Alors, on peut très bien comprendre que cette attitude, je ne dis pas qu'elles ont raison là, on peut très bien comprendre que cette attitude d'abandon, qui est inscrite dans notre cœur et qui est l'attitude finalement la plus radicale, la plus profonde, elle est faite pour envahir toute notre humanité, toute notre vie, toute notre manière de vivre. Donc vous pouvez comprendre que la charité nous dispose, tente à disposer toute notre humanité à demeurer dans l'abandon. Quand saint Paul dit « Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit », Galates 5, 25, ce que la liturgie traduit « Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit », on peut dire qu'il fait sa distinction là. « Puisque nous vivons par l'Esprit Saint », en fait, « Puisque nous vivons par la charité », « Puisque l'Esprit nous fait vivre d'amour », au fond de notre cœur, cette charité qui nous unit à Dieu, au fond de notre cœur. Que l'Esprit nous fasse vivre, nous fasse marcher, que l'Esprit nous fasse aussi agir, traduit la Bible de Jérusalem. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Ça voudrait dire ici, laissons-nous conduire dans un esprit d'abandon, comme des enfants, comme une épouse, qui repose sur le cœur de son époux, dans les bras de son époux, qui se laisse faire, qui se laisse aimer. Laissons-nous conduire par l'Esprit dans toute notre vie. Vivre en enfant de Dieu, en enfant bien-aimé, vivre en épouse. Donc j'insiste, hein, c'est toute notre humanité qui est faite pour être livrée, qui est faite pour se laisser faire, se laisser mener. Et donc là, il n'y a pas besoin, si vous voulez, pas besoin de mettre du religieux à côté. Hein. Je repense à un témoignage d'un couple qui a fait un long chemin, qui disait qu'au début, quand ils se sont vraiment profondément convertis, avant de s'unir dans l'acte conjugal, avant de poser l'acte conjugal, comme disent les professeurs de théologie, si on parlait comme ça à la télé, hein, ce serait mieux, avant de poser l'acte conjugal, eh bien, ils priaient avant, hein, pour que cet acte puisse être vécu en Dieu. Et ils ont appris à, progressivement, dans la manière de vivre l'acte conjugal, à le vivre dans un esprit d'abandon, de soumission à Dieu, qui fait qu'ils éprouvaient moins le besoin de faire des prières avant, parce qu'ils le vivaient spontanément dans un climat de prière. Vous voyez, le passage d'une vie où on met du spirituel à côté d'une réalité humaine, à un passage où on vit la réalité humaine naturellement, divinement. Ça, c'est assez fort. Hein. Il serait déjà bien que les groupes chrétiens puissent comprendre qu'on peut prier avant de s'unir charnellement, que ce n'est pas quelque chose qui échappe à l'Esprit Saint. Mais ensuite, dans la manière de poser l'acte conjugal, il y a une manière, je dirais, d'abandon, moi je crois que c'est le secret, qui fait que les choses sont vécues en Dieu. Et à ce moment-là, ça peut être que vécu que plus naturellement. Surnaturellement, naturellement. C'est pas mon exercice à moi, mais je trouve que ça devrait être un bon terrain d'exercice. Vous voyez ? Pour les personnes d'entre vous qui sont mariées. Bon, en même temps, c'est sûrement un bon terrain de vérification qu'on n'arrive pas à tout sanctifier. Hein. Mais ça, bon. Il faut aussi reconnaître que dans cette question-là, ça se fait à deux, et si l'autre n'est pas dans l'abandon, ça ne doit pas être facile à vivre. Mais si on regarde les choses d'une manière plus large, vous voyez, c'est cette idée qu'au fond, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile pour nous, l'abandon. À la fois de plus simple, quelque part de plus naturel, entre guillemets, et en même temps, c'est le lieu du combat, puisque nous savons bien que dès la Genèse, le père du mensonge a essayé de semer un esprit de doute, de méfiance, et donc aussi un esprit d'autonomie. Et je crois qu'on peut résumer les choses en disant qu'en chacun de nous, il y a une peur de dépendre de l'autre, même si c'est l'autre avec un grand A. Et cette peur de dépendre, il faut savoir la reconnaître. Comment se termine la prière du Père de Foucault ? Je m'abandonne totalement, ou je, dans un abandon total, dans une confiance totale. En tout cas, je me souviens, à l'hôpital, je l'avais lu et la personne avait réagi. Oh non, pas total, hein, pas total. Un peu d'abandon suffit. La peur de dépendre totalement d'un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas dépendre totalement d'une créature, on le sent bien. Ce serait l'idolâtrie, en fait. Mais par contre, on est fait pour dépendre totalement de Dieu. Et ça, j'insiste aussi, dans notre vie, vous voyez, intellectuelle, il n'y a pas une case qui serait réservée à la liberté, entre guillemets, où on pourrait se dire, ben là, je vais enfin pouvoir penser ce que j'ai envie de penser et lire ce que j'ai envie de lire. Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, on peut dire de tout ton psychisme aussi, de toutes tes émotions, de tout ton esprit en réalité, de toutes tes pensées. Tu aimeras Dieu de toutes tes pensées. Tu consacres à Dieu toute ta vie. tout ton être. Dans cette confiance totale, que ce Dieu auquel tu te consacres tout entier, auquel tu te livres tout entier, te respecte tout entier, plus que tu ne te respectes toi-même. Hein ? On devient curé, bonne sœur. Mais je... Vous voyez la peur, hein, du Dieu qui nous fait curer, bonne sœur, si on se livre à lui. Et cette idée qui est dans la tête d'une certaine génération, qui actuellement a plutôt les cheveux blancs, que au fond, c'est pas possible de vivre saintement la vie ordinaire, et que si on veut vivre saintement, bah, il faut quelque part rentrer dans les ordres. Je vous ai donné l'exemple quand même impressionnant d'un acte conjugal posé dans l'abandon, en esprit en vérité, c'est-à-dire pas en essayant de réciter le chapelet pendant qu'on pose l'acte, ce qui me semble difficile. Là, je demande à voir. Enfin, non, je ne demande pas à voir, mais j'y crois pas. Dans le livre de Tobie, il n'y avait pas le chapelet à l'époque. Ah oui, non, il prie avant. Oui, il prie avant. Il prie avant pour exprimer qu'ils ne veulent pas vivre ça selon la passion. Ben, s'ils ne veulent pas vivre cela selon la passion, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de le vivre selon l'Esprit Saint. On est bien d'accord. Mais évidemment, ils n'invoquent pas l'Esprit Saint. Mais c'est très beau parce qu'ils le vivent comme une manière de rendre gloire à Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Ils se sentent unis vraiment dans cette commune obéissance à la volonté de Dieu et ils posent l'acte dans cet état d'esprit. Oui, c'est très bien après avoir fait leur prière tous les deux. Et ils ont attendu 3 jours, je crois. Et mon saint patron a fait ça avec son épouse, Saint Louis. J'ai entendu dire que l'épouse en question n'avait pas trop apprécié. Parce qu'elle n'a pas été canonisée, peut-être de ce fait-là. Mais en tout cas, il avait dû lire la Bible. Hein. Lui, il a été canonisé, ben oui, c'est sûr. Hein. Rien que ça. Hein. Alors, est-ce que je vais retrouver Toby? Bon, enfin, non, vous connaissez l'histoire, vous la relirez. Hein? Alors, cette disposition donc fondamentale qu'est l'abandon, et qui est faite pour être la disposition fondamentale de toutes nos actions, de toute notre manière de vivre, elle vaut pour tous et en tout. La voie d'enfance, autrement dit, on peut appeler ça la voie d'enfance, mais on pourrait aussi appeler ça la voie d'épouse. Ben, la voie de l'épouse. C'est autant la voie de l'enfant que la voie de l'épouse. L'épouse qui se laisse épouser, qui se laisse aimer, qui se fait tout accueil. Et je me rappelle que Pie XI, quand il l'a béatifié, bien que c'était la béatification, non pas la canonisation, mais je ne suis plus tellement sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait tout un développement parce qu'il y avait des patrons chrétiens qui disaient que oui, c'était bien la voie d'enfance, mais ce n'était pas fait pour eux. Vous voyez l'esprit finalement de peur de rentrer dans ce mouvement de lâcher prise, on va dire les choses comme ça, hein, de remise totale de soi, de ses projets, de ses facultés, de la part d'hommes qui sont habitués à cultiver la maîtrise de tout. Et qui ont senti que la voie d'enfance les mettait en cause, dans leur attitude fondamentale. Et Pie XI a résisté en disant non, même les patrons chrétiens sont appelés à suivre la voie d'enfance. C'est assez amusant comme discours. Parce qu'évidemment, ça va de soi, c'est pas parce qu'on est patron chrétien qu'on n'est pas enfant bien-aimé de Dieu et appelé à vivre une vie d'amour responsable avec le Dieu époux. À la limite, la question frôle l'absurde. Mais en même temps, quand on regarde par rapport à la vie concrète, ça m'est arrivé aussi de parler avec des personnes engagées, enfin, un cadre dynamique, disons, dire mais c'est l'abandon en entreprise, étant donné les rapports qu'il y a, la violence et tout ça, c'est pratiquement impossible. En réalité, bien compris, c'est toujours possible. Bien compris. Et comme l'homme suit la volonté, suit la raison, comme dit saint Thomas d'Aquin, et qu'on vit les choses comme on les voit, la première chose qui a besoin d'être abandonnée, entre guillemets, mise en état d'abandon, mise en disposition d'abandon pour être sous la mouvance de l'esprit, c'est notre intelligence. Et vous voyez, on parle beaucoup de la... Enfin, relativement, on dit « Seigneur, donne-nous un cœur nouveau », en pensant à la vie, à notre vie d'amour avec les autres, on ressent le besoin d'un amour nouveau. Enfin, au moins, certaines personnes le ressentent. Mais on oublie que dans l'Écriture, à plusieurs reprises, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau ». Pas simplement le cœur nouveau, mais l'esprit nouveau. Et l'esprit nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. Mais de penser dans cet esprit, donc dans une intelligence abandonnée. Alors c'est intéressant parce que nous avons l'exemple dans le livre de la sagesse d'un homme qui exerce le pouvoir, qui est plus que patron, que grand patron, puisqu'il est roi. Et c'est la prière de Salomon qui demande la sagesse. Je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. Dire parfait en connaissance partielle, en savoir, mais s'il n'a pas la sagesse, il ne voit rien. On le comptera pour rien. Bon. Et alors, il dit, envoie-moi la sagesse, qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions. Alors, mes œuvres seront agréées. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus grand que la sagesse? Juste après la charité. Puisque c'est elle qui guidera nos pas, nos actions en tout. Mais le don de sagesse est le don le plus grand. Et c'est le don de l'Esprit-Saint. On a un peu, si vous voulez, dans l'Écriture, le don de sagesse est omniprésent. Mais il y a, vous savez, un passage dans Isaïe, hein, je crois que c'est au chapitre 11, hein, où il est question aussi du don d'intelligence. En fait, c'est un esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de science. C'est les quatre dons qui disposent l'intelligence. Mais en réalité, on peut tout ramener à la sagesse, au don de sagesse. De toute façon, ce n'est pas le fait de connaître les quatre, la liste des quatre dons de l'esprit qui regarde l'intelligence, les dispositions de l'intelligence, qui nous rend plus abandonnés au niveau de l'exercice de notre intelligence. Hein. On est bien d'accord. Mais il s'agit d'apprendre à vivre dans le témoignage, de suivre un chemin, donc chemin de docilité à l'Esprit Saint en laissant l'Esprit Saint nous disposer donc disposer notre intelligence de telle manière comment on pourrait décrire les choses. De telle manière que nous arrêtions de penser de nous-mêmes pour arrêter de parler de nous-mêmes. C'est bien ce que Jésus nous fait comprendre dans l'évangile de Saint Jean, hein, où il dit explicitement qu'il ne parle pas de lui-même. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. C'est Jean 7, 18, donc 16 plutôt à 18. Donc Jésus lui-même a vécu dans son humanité, il a vécu en permanence sous le régime des sept dons de l'Esprit-Saint. Son intelligence était une intelligence d'enfant. Et donc ces dispositions-là, nous les trouvons dans le Christ. C'est l'Esprit Saint, de toute façon, c'est l'Esprit du Christ. Et les dons de l'Esprit Saint, c'est les dons du Christ. On peut dire que dans l'humanité du Christ, notre humanité a été totalement pénétrée, pétrie par l'Esprit, disposée par l'Esprit, totalement perméable donc à Dieu. En ce qui concerne la Vierge Marie, elle a été évidemment aussi sans aucune résistance à l'Esprit Saint, mais la différence c'est que la Vierge Marie, elle n'a cessé de grandir dans cet abandon. Jésus, lui, comme fils bien-aimé du Père, était totalement abandonné, dans une plénitude qui était donnée à la base, tandis que la Vierge, c'est intéressant, c'est qu'elle a suivi Jésus sur le chemin de l'abandon, qu'elle n'a cessé de grandir dans l'humilité, la confiance et l'abandon. Écoutez l'Écriture, repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur. Ça, c'est la charité. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Dans toutes tes démarches, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ne pas s'appuyer sur son propre entendement dans le témoignage, dans l'évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je donnerai deux pistes qui sont des avertissements. Penser de soi-même, parler de soi-même, c'est s'appuyer sur soi. On s'appuie sur soi à partir du moment où on s'appuie sur son savoir. On retombe sur la question précédente. Je sais, lui, il ne sait pas. Moi, je sais, et donc je vais lui dire ce que je sais. Comme ça, il saura ce que je sais. En fait, ça n'a jamais marché. Parce que moi, je sais, je dis ce que je sais pour qu'il sache ce que je sais, c'est moi qui commande. Je suis plus serviteur de l'Esprit-Saint, c'est moi qui suis le maître. Je suis le maître. Je communique mon savoir. Alors, je peux mettre beaucoup de formes, hein, faire les choses avec beaucoup de pédagogie, mais en attendant, je suis en train de le formater. Mais c'est pas ça l'évangélisation, ça c'est l'endoctrinement. Et je dirais que le problème du savoir, c'est donc que c'est un avoir, et donc on possède, on a un appui en soi, et donc on n'est plus dans les dispositions de l'Esprit-Saint. On n'est plus dans les dispositions d'abandon que l'Esprit-Saint nous communique, notamment d'abandon au niveau de l'intelligence par le don de sagesse. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous comprenez ça comment? Hein? Ni bâton, et quand on boite, et quand on sort d'opération. Ni or, ni argent, si on doit partir pour témoigner, il faut bien prendre l'avion. Ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, et ça ne va pas. Ah oui, je suis désolé, ceux qui prennent ça au sens littéral sont mal partis, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, or, argent, il faut peut-être l'entendre dans le sens d'une richesse. Une richesse notamment intellectuelle. Quelle est notre première richesse, je dirais, notre premier trésor, si ce n'est le trésor de notre culture, de nos connaissances. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir. Père Thomas Philippe disait de la Vierge Marie qu'elle n'avait jamais rien voulu savoir. Je n'ai rien voulu posséder. Je suis resté sans or, ni argent, ni menu monnaie. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est la contemplation. Cette connaissance de Jésus-Christ, elle n'est pas de l'ordre du savoir, elle ne se laissera pas jamais posséder. C'est la vision de celui que notre cœur aime et que notre esprit voit. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance. La puissance de l'esprit, la force d'en haut vous sera donnée. Pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Évidemment, il y a des personnes qui arrivent à convaincre humainement des vérités de la foi. Alors, les gens sont convaincus humainement, mais ils ne sont pas convertis. Oui, ça arrive. Ils ont été bien cultivés chrétiennement, ils ont des idées chrétiennes dans la tête, mais ils n'ont pas été touchés par l'Esprit-Saint. Ça fait de beaux humanistes chrétiens, qui ensuite, quand ils font de la politique, on leur demande s'ils prient l'Esprit-Saint, ils répondent « il ne faut pas mélanger les genres ». Aucune allusion à aucun homme politique. Non, c'est triste. 30 ans de formation chrétienne pour ne pas comprendre qu'on ne peut faire aucune œuvre qui demeure sans l'Esprit-Saint. Mais voyez ici, saint Paul dit deux choses. Je n'ai rien voulu savoir, ça c'est le piège du savoir. Et ma parole et mes messages n'avaient rien du discours persuasif de la sagesse. Ici, je reviens sur ce thème de la question du vouloir convaincre au sens où si c'est s'appuyer sur la puissance de frappe de la logique, au sens que par la puissance de notre raisonnement, on va coincer l'autre. On coince et on lui montre que il a tort et nous on a raison. Preuve deux par deux. Ça, ça n'a jamais converti personne. Pour deux raisons, c'est que même si la personne se soumet au raisonnement logique en disant « Ah bah oui, vous avez raison, c'est tellement logique ce que vous dites. » C'est pas pour autant qu'elle sera convertie dans son esprit, dans son cœur, et qu'ensuite, fatalement, dans cet appui sur la logique, sur le raisonnement logique, comme dans l'appui sur le savoir, les deux pièges, je pense et je parle de moi-même. Je m'appuie sur moi-même, je ne suis plus dans l'abandon. Et donc, il n'y a plus de place pour l'Esprit-Saint, enfin, pour la lumière divine, disons plus précisément. Et donc ça m'a amené à donner une recommandation, c'est que dans un dialogue avec quelqu'un, il nous parle de quelque chose, si je sais humainement la réponse, vaut mieux se taire. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Si j'ai le sentiment, je jouis du sentiment de savoir ce qu'il faut lui dire, vaut mieux se taire. Rentrer dans le silence. L'Esprit Saint nous inspirer éventuellement autre chose que ce qu'on en sait. Et une action divine ne pourra jamais naître d'un savoir possédé sur lequel on s'appuie. Je répète, j'enfonce le clou, attention, avoir, savoir, pouvoir, tout ça, c'est tout un. Et donc, plus tu es grande, il est si racine, plus il faut t'abaisser, plus tu sais de choses, plus il faut te dépouiller de ce que tu sais. Et quel est le premier exercice par lequel nous allons nous dépouiller de ce savoir qui nous empêche de garder une intelligence d'enfant qui ne sait rien, mais qui demeure enseignable, précisément parce qu'il ne sait rien? Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, dit Élisabeth, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Ah oui, ça, c'est je veux vivre l'abandon dans l'exercice de mon intelligence. Et si je sais, comment je peux faire enseignable? Pour se faire tout enseignable, il faut se faire tout pauvre. En esprit, afin d'apprendre tout de vous. Alors à ce moment-là, ça sert à quoi de suivre, disons, des enseignements de théologie, dogmatique sur le dogme et tout ça? Ça sert à quoi d'apprendre des choses si, en fait, ça risque plus de nous gêner que de nous aider dans l'évangélisation? Vous savez la réponse? La réponse est dans l'évangile de Saint Jean. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite, un enseignement. Par exemple, on suit un enseignement sur le mystère de l'incarnation. C'est tellement important de pouvoir témoigner du mystère de l'incarnation. On suit un enseignement sur le mystère de l'incarnation. Dans cet enseignement, si on est dans la prière, Jésus va nous parler. Il va nous dire des choses. Donc, avec l'intelligence du cœur, on va comprendre des choses. Ce ne sera pas un savoir. Ce sera plus que ça. Ce sera une connaissance intérieure, quelque chose qu'on aura vraiment compris en profondeur, qui peut se traduire par un savoir. Je sais que le fils du Père s'est fait homme, il s'est fait chair, il a assumé toute notre condition humaine, ça c'est le savoir. Bon, d'accord. Mais si c'est Jésus qui me parle à travers cet enseignement, il y a plus que ça. Sinon, il suffirait de recopier la chose et puis de... Non, il y a on a pénétré, pour une part, dans le mystère. Bon. On est rentré dans une vraie connaissance. Qu'est-ce que dit Jésus? L'Esprit Saint vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que dans le moment de l'évangélisation, je ne peux pas dire le savoir, mais disons, les connaissances. Connaissances, c'est plus large. Les connaissances dont on a besoin, c'est l'Esprit Saint qui va nous les rappeler. Ce que l'on connaît, quelque part, ce que l'on a vraiment compris, que peut-être on a l'impression d'avoir oublié, c'est un fait que l'Esprit Saint les rappelle. Il vous le rappellera. Mais ici, j'énonce un principe. L'Esprit Saint ne rappelle que ce que Jésus nous a dit. déjà qu'on ait laissé Jésus nous parler. Ensuite, l'Esprit Saint nous rappelle ce qu'on a vraiment compris. Il ne nous rappelle pas des connaissances purement intellectuelles emmagasinées par cupidité. Genre la personne qui connaît tout de saint Thomas d'Aquin, qui a tout lu, mais qui n'a rien compris, avec le cœur. Et donc, en réalité, dans cette perspective-là, on n'est pas dans le savoir, au sens de quelque chose que l'on, d'une connaissance possédable. Alors, on aimerait bien avoir, vous voyez, un trésor de connaissances à notre disposition, dont on se servirait comme on veut pour convaincre les gens. Mais non, c'est absolument pas ça. C'est la tentation que d'avoir un gros bagage de connaissances que l'on va déverser sur les autres. Plus en utilisant la logique. Mais par contre, de penser que tout le temps que nous aurons passé, notamment à méditer l'Écriture, à laisser le Christ nous enseigner lui-même à travers les Écritures. Mais toutes ces paroles de l'Écriture que nous aurons laissées descendre dans notre cœur et nous reviendrons au moment voulu. Parce qu'il y a une manière très simple de vivre ça. C'est tout simplement de passer du temps à méditer l'Écriture. Parce que Jésus dit tout ce que je vous ai dit. Ce qu'il nous a dit, c'est dans l'Évangile. Il va dire, moi, Jésus ne me parle pas. Si, pardon. Constamment, il demande qu'à me parler si je veux bien ouvrir l'Évangile et le lire avec le cœur. À ce moment-là, ce qu'il m'enseigne, ça descend quelque part. Peut-être que demain, je ne me souviendrai plus de ce qu'il m'a dit dans la prière, dans la lectio divina. Mais, au moment voulu, peut-être 2 ans après, hop, ça revient. Parce que l'Esprit Saint a une très bonne mémoire. Non, mais il sait bien ce qui est dans notre cœur, ce que Jésus a dit à notre cœur. Et donc, il le fait remonter quand il veut. De toute façon, c'est inscrit quelque part. Donc, de revenir, vous voyez, à l'Écriture. À la simplicité de l'Écriture et de laisser l'Esprit Saint mettre sur nos lèvres la parole de l'Écriture que l'autre a besoin d'entendre, qui va jaillir spontanément de notre esprit. C'est très différent que de connaître par cœur les Écritures et de tirer à la mitraillette avec des citations. Là, je veux citer personne. Enfin, quand même, on peut parler des témoins de Jéhovah. Et bon, c'est toujours les mêmes citations qu'ils ont. Puis, c'est eux qui tiennent les commandes. Bon. C'est différent aussi, vous voyez, que d'approcher l'autre d'une manière charismatique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On écoute, et puis d'écouter, je vais chercher un texte pour vous. Je cherche un texte. Ah ben voilà, j'ai telle parole, tel verset. Et ça peut marcher des fois. Ça, c'est charismatique, c'est différent. Moi, j'ai un charisme de texte souvent. Vous me demandez de prier pour vous, je vais vous trouver un texte, je vous préviens. Mais ça, c'est charismatique, vous voyez, ça, c'est pas une disposition permanente, le charisme de texte, moi, de passer sa vie avec le nez dans la Bible. Mais l'Esprit Saint, il peut faire mieux, si je puis dire, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de réouvrir la Bible, il réouvre notre esprit à la parole que lui choisit, qui remonte. La différence, vous voyez, entre un charisme de texte et le don de sagesse. C'est le don de sagesse peut nous guider en toutes circonstances, parce qu'en réalité, à ce niveau-là, Dieu n'a besoin que de notre abandon, et c'est l'Esprit Saint qui fait le reste. Je repense à ce qui est dit du serviteur. Vous savez, dans Isaïe, il est question du serviteur qui se laisse enseigner. Qui se laisse enseigner chaque matin. Hein, vous vous souvenez de ces paroles, hein. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Voyez, ça c'est ce qui dépend de nous au fond. Hein, c'est d'écouter comme un disciple, mais j'ai envie de dire comme un enfant, notre Père du ciel, qui nous dit Jésus, il n'a qu'une seule parole, c'est son Fils. Et chaque matin, il éveille notre oreille. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui éveille l'oreille de notre cœur, en la disposant justement à écouter des paroles divines. Donc dans l'Esprit Saint, j'accueille les paroles que Jésus veut mettre dans mon cœur, veut faire descendre dans mon cœur, me faire comprendre intérieurement. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, ça c'est les dons de l'Esprit Saint, et moi je n'ai pas résisté, je me suis abandonné, je suis rentré dans l'abandon, je ne suis pas dérobé. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment témoin. Ensuite, l'Esprit Saint, que dans le matin est descendu dans notre cœur, eh bien, il va s'en servir pour telle ou telle personne qu'on va rencontrer. Et figurez-vous que l'Esprit Saint, il connaît les personnes qu'on va rencontrer. Et comme il est très très intelligent, il prépare le terrain à l'avance. Et en fait, il va nous donner les lumières dont on a besoin pour rencontrer telle personne qu'elle n'en pense pas du tout. Nous faire voir déjà le matin des choses qui nous rappellera l'après-midi. Ça, dans ma vie de prêtre, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je comprenais le soir pourquoi j'avais vu telle chose le matin. C'était pour telle personne. Donc quand je lis l'Écriture, c'est pour me faire serviteur de la parole de Dieu, c'est-à-dire pour la transmettre à d'autres. Je la lis dans une totale liberté, parce que je ne la lis pas pour moi, je la lis pour me faire serviteur des vérités que Dieu va me donner de voir dans l'Esprit Saint et que je pourrai transmettre dans l'Esprit Saint. Donc j'accueille très librement cette parole, sans chercher à savoir des choses, mais en laissant l'Esprit Saint agir à travers l'Écriture pour me montrer, me faire comprendre ce qu'il veut me faire comprendre. Et dans la conversation toute simple avec quelqu'un, c'est cette lumière-là qui va revenir et m'inspirer. Condition que je reste dans l'abandon. Oui, normalement, on devrait tous fonctionner comme ça. Hein. Prendre le temps de se laisser pénétrer par la parole, vraiment qu'elle se transforme pour nous en des choses que Jésus nous dit à notre cœur, et que l'Esprit Saint nous rappellera donc quand il le voudra. Et des fois, c'est pour la journée, c'est le pain. L'ouvrier mérite sa nourriture. Alors voilà, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, ne vous procurez ni or. Quand vous partez en évangélisation, n'emmenez pas la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sous le bras pour essayer de convaincre. Hein. Même, vous pouvez accepter de partir sans avoir la Bible dans les mains. C'est conseillé de l'avoir si le voyage doit être long. Hein. Mais, de toute façon, l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire, la vraie nourriture, c'est ma parole et je vous la donnerai. Je vous la rappellerai. Donc vous pouvez y aller les mains vides et l'esprit vide. Comme je sais que vous avez peur du vide, Je vous dis, l'ouvrier mérite sa nourriture. Je vous fais une promesse que plus vous serez pauvre en esprit et plus l'Esprit Saint agira. Pas possible qu'il vous laisse tomber si vraiment c'est l'esprit d'enfance, d'abandon qui vous meut et qui vous donne de rentrer dans cette pauvreté. Lâchez vos valises intellectuelles. Dès qu'on a affaire à quelque chose qui touche au salut des âmes, un professeur de mathématiques, on ne va pas lui dire lâchez vos connaissances mathématiques, ça n'a pas de sens. Bien obligé de s'appuyer sur. S'il n'a pas une bonne mémoire, qu'il ne se souvient plus d'un théorème, qu'il serait obligé de le redémontrer pour le retrouver, non, il faut bien qu'il ait des connaissances. Professeur de physique, évidemment aussi, professeur d'histoire, tout ça, ça fonctionne avec le savoir. Mais pour ce qui est de l'évangélisation, parce qu'on touche à quelque chose qui touche au salut de l'âme, donc il n'y a que l'Esprit Saint qui peut agir. Un professeur de mathématiques, il peut vivre l'abandon à un autre niveau. Il vit l'abandon en acceptant humblement les limites de l'intelligence des élèves. Et puis, il peut vivre l'abandon en discernant le moment où il doit s'arrêter parce que les élèves n'arrivent plus à suivre. On peut toujours vivre l'abandon. Mais c'est au niveau du témoignage, vous voyez, que c'est notre intelligence tout entière qui doit être dans cette attitude d'abandon. Écoutez, encore Saint Paul, parce que c'est le modèle du missionnaire, comme l'a rappelé Benoît XVI récemment, dans cette année qui est consacrée à Saint Paul. Et quand il dit que donc, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Bon. Nous n'avons pas nous reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, c'est-à-dire, nous voyons des choses que l'Esprit Saint seul peut révéler. Mais non seulement nous les voyons, mais nous les exprimons divinement. Nous n'en parlons pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse. Nous ne transformons pas ces visions en un savoir que nous posséderions, qu'ensuite nous utiliserions comme une force de frappe pour essayer de convaincre humainement les autres. Nous n'en parlons pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. La vision doit être divine et l'expression aussi. Ça veut dire les sept ans de l'Esprit Saint, c'est tout. Hein. Pas à paniquer. À partir du moment où nous avons la charité en nous, nous avons les sept ans de l'Esprit Saint. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas habitué à lâcher prise au niveau de la pensée, on n'est pas habitué à vivre cet abandon au niveau de l'intellect, et qu'on est dans une société où on cherche à tout prix la sécurité, et donc bien c'est tout de suite Internet, tout de suite le savoir, tout de suite l'accumulation des connaissances. Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voyez, le fait de chercher comment parler ou que dire, ça gêne l'Esprit Saint. Parce que c'est un manque d'abandon. En définitive, l'abandon, je disais, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'on est fait pour vivre comme un petit enfant, comme une épouse. C'est la vérité la plus profonde de notre être, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et depuis le péché originel, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc quand Jésus dit « Je vous donnerai la force d'en haut », on peut l'interpréter aussi « Je vous donnerai la force pour vous abandonner », pour que la force de l'abandon. La force de cet abandon total dont vous avait perdu la capacité depuis l'origine, le commencement de l'histoire de l'humanité. La vraie force, c'est celle de sauter dans le vide. La vraie force, c'est celle d'attendre tout de Dieu. La vraie force, c'est celle de rester sans sécurité, sans possession. C'est ça la vraie force d'âme. C'est de marcher sur les eaux. C'est pas de passer des heures et des heures à apprendre des choses, c'est pas la générosité héroïque, c'est pas ça. Non, la vraie force, c'est cet abandon du tout petit que Jésus est venu vivre dans notre humanité, pour nous, qui peut nous communiquer, puisqu'il l'a vécu jusqu'au bout, cet abandon sur la croix. C'est celle qui nous apprend à accueillir, c'est cet don de l'Esprit Saint qui nous montre en même temps le chemin, c'est la Vierge Marie, donc nous invoquons aussi toujours dans notre recherche d'une vie entièrement menée par l'Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.